France Inter, le rendez-vous de la médiatrice, Emmanuelle Davier.
Les auditeurs de France Inter ont des exigences et le font savoir quotidiennement à travers les messages qu'ils m'adressent. Pour vous, auditeurs, la radio doit représenter la diversité des Français, qu'il s'agisse de culture, d'opinion, d'origine sociale et géographique, la diversité des invités en studio, la pluralité des points de vue, la variété des thèmes abordés doivent refléter les préoccupations qui traversent votre quotidien et vous souhaitez que la diversité régionale et locale soit valorisée. Dans les programmes que vous écoutez, vous voulez que le dialogue, l'échange, la réflexion résonnent certes avec vos propres points de vue, mais vous ouvre également la possibilité d'entendre la différence et que la confrontation des opinions vous enrichisse. Les deux émissions que nous allons évoquer aujourd'hui répondent à ces différentes exigences et je vous propose ce matin d'en découvrir les coulisses au programme Grand bien vous fasse et Carnet de campagne. Trois mots résument efficacement ces deux émissions, éclectisme, bienveillance et proximité. Pour en parler ce matin avec nous en studio, Ali Rebéi et Philippe Bertrand, bonjour à tous les
bonjour
deux.
Bonjour Emmanuel Davier.
Bonjour Emmanuel.
On commence tout de suite avec Grand bien vous fasse.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Comment expliquer l'épidémie de narcissisme qui contamine nos sociétés ? Pour votre humble serviteur, il manque quelque chose à un déjeuner ou un dîner sans fromage, de chèvre de préférence, un sentiment d'inachevé, d'incomplétude dans l'ordonnancement du repas. Bref, un seul fromage me manque et mon repas est dépeuplé. Nous attendons toutes vos questions sur le pénis au 01 45 24 7000, sans oublier l'appli France Inter et la page Facebook de Grand bien vous fasse.
Ce que l'on reproche, nous les scientifiques, à l'homéopathie, c'est de tenter de justifier cette approche légitime de la personnalisation par le fait que derrière l'homéopathie, il n'y a rien sur le plan pharmacologique, chimique, physique, physiologique. Il n'y a rien.
Il existe de plus en plus de défiance à l'égard de certaines politiques publiques. Je pense par exemple évidemment aux campagnes de vaccination, surtout rejetées par un pan de la population.
Quand on parle par exemple d'antibiothérapie ou de vaccination, et qu'on dit « moi je prends le risque individuellement de ne pas me vacciner ou de prendre un antibiotique », on engage toute la société.
Grand bien vous fasse. Comme son nom l'indique, c'est l'émission qui fait du bien, une émission éclairante, bienveillante sur toutes les questions du quotidien. On y parle amour, éducation, nutrition, santé, travail, très loin du clash et du sensationnalisme. Ce rendez-vous laisse à chacun la possibilité de s'exprimer. Bref, c'est une sorte de parenthèse qui apaise et vous êtes nombreux à nous l'écrire. Un message parmi d'autres, un grand merci à Ali Rebéi, à toute l'équipe qui produit l'émission, aux chroniqueurs et aux invités. C'est une chance d'avoir un tel programme tous les jours. Autre message, je trouve votre émission exceptionnelle et rare sur les ondes. La variété de sujets pertinents est unique. Souvent, j'arrête de bosser pour écouter. Les sujets de pleine conscience et vos intervenants sont exceptionnels. Merci de tout cœur. Néanmoins, Ali, et voilà. Et on arrive dans le mail de cet auditeur au sujet qui fâche. Mail, on l'a entendu, qui commence de manière tout à fait élogieuse et dont la suite évoque les deux thèmes qui suscitent le plus de remarques négatives chez les auditeurs. Donc, je poursuis la lecture. Sur un sujet, je trouve qu'il y a un manque de pertinence sur les médicaments allopathiques versus homéopathiques. Je trouve que vous êtes en contradiction avec l'impartialité dont vous faites preuve habituellement. Je trouve donc que vous faites preuve de parti pris. Peut-être ne pouvez-vous pas aller contre la pensée unique sur la question déclarée par le gouvernement et le ministère de la Santé, sans compter sur la puissance de l'industrie pharmaceutique. Je m'étonne donc de votre sens critique dans ce domaine. Avant d'aborder l'autre sujet qui fâche, Ali Rebéi, peut-être pouvez-vous déjà répondre à cette interpellation au sujet de l'homéopathie.
Sur l'homéopathie, dans l'émission que nous avons consacrée récemment à l'homéopathie, moi j'essaie d'être honnête. Alors il peut y avoir parfois un peu de partialité, selon cet auditeur. C'est vrai que c'était une émission en partenariat avec un documentaire de France 5 qui montrait l'absence de preuves scientifique de l'homéopathie. Voilà. Donc c'est vrai que à l'antenne, convaincu par ce documentaire, c'est vrai que j'avais un positionnement, je dirais pas anti-homéopathie, puisque l'homéopathie allez s'occupe de traiter les petits maux du quotidien. C'est pas il y a pas de contre-indication, il y a pas d'effet indésirable avéré avec l'homéopathie. Donc c'est rien de grave autour de cette question-là. C'est vrai qu'elle suscite des débats parce que c'est une croyance. Et l'angle du sujet, c'était est-ce que c'est un effet placebo ou pas. Voilà. Et notamment dans ce documentaire de France 5, il était indiqué que On ne sait pas comment ça marche. Ça peut marcher, évidemment. Ça peut être un effet placebo ou pas. Bon, alors c'est vrai que dans cette émission, face à une médecin homéopathe, Chantal Chemla-Boukara, qui est présidente d'honneur de l'école d'homéopathie INHF Paris, c'est vrai qu'à un moment donné, quand elle dit qu'en Afrique, dans les cas de paludisme, on peut éventuellement prescrire de l'homéopathie, nous avons un invité, le professeur François Chaste, qui, on vient de l'entendre, violemment s'oppose à elle. Et c'est vrai qu'objectivement, j'étais plutôt du côté de la position de François Chaste. Voilà.
Alors, je poursuis le mail de cet auditeur. Il en est de même pour le sujet de la vaccination. Est-ce que toutes les positions officielles du gouvernement sont à valider sur une chaîne du service public sans réserve? Pourquoi ne jamais inviter des opposants à la vaccination? Avons-nous vraiment la liberté d'opinion sur le service public? Je pense catégoriquement non. Vous vous exposeriez trop contre la pensée dominante étatique. Alors, je complète à l'IREBI ce propos par le message d'une auditrice Béatrice qui nous dit « À l'IREBI, ne perd pas une occasion de traiter les questionneurs de vaccins de complotistes afin de disqualifier leurs propos. Que répondez-vous à ces auditeurs ?
Alors d'abord, l'une des missions de Grand Main Vous Fasse, c'est de faire de la pédagogie, pas de désinformer. Et à titre personnel, je me fie davantage au consensus scientifique qu'aux vendeurs de fausses nouvelles, infox, fake news. Je me fie plutôt à ceux qui, dans leur domaine, l'immunologie notamment, défendent la vaccination. J'aimerais rappeler que l'OMS vient de déclarer que la suspicion vis-à-vis des vaccins était l'un des 20 plus grands fléaux mondiaux en matière de santé. L'OMS, si on prend la balance bénéfice-risque concernant les vaccins, considère que la balance est largement positive. Moi, je suis désolé, mais moi, j'ai interrogé de nombreux professionnels, spécialistes des vaccins, qui vous disent que vous courez davantage de risques à ne pas vous faire vacciner contre la polio ou la rougeole que de vous faire vacciner contre ces maladies. Dans le cas de la polio, si vous ne vous faites pas vacciner, vous risquez la paralysie. Dans le cas de la rougeole, on assiste aujourd'hui à une augmentation des cas de rougeole en France et aux États-Unis et partout en Europe. En cas de rougeole, vous risquez d'être atteint d'une encéphalite ou de cécité. On peut mourir encore aujourd'hui de la rougeole. Et moi, j'ai pas envie de jouer avec la vie de nos auditeurs. Et comme le rappelle justement le professeur en pédiatrie Jean-Hugues Dalle, il y a nettement moins de victimes de vaccins que de victimes d'accidents de la route ou d'accidents domestiques. Alors moi, je fais de la pédagogie, je n'ai pas envie de faire de la désinformation. Effectivement, il y a beaucoup d'auditeurs qui se posent des questions. Il y a un ventre mou, entre guillemets,
en tout cas,
d'auditeurs qui s'interrogent. Mmh. Ceux-là, j'ai envie de leur donner l'information la plus juste possible, la plus objective et la plus honnête possible. Effectivement, il va m'être difficile dans cette émission de convaincre les anti-vaccins. Ils ont leurs croyances, on peut pas les convaincre du contraire.
Voilà. Donc globalement, sont les anti-vaccins qui nous écrivent de toute façon le plus.
Effectivement. Et puis, je suis producteur d'une émission où je dois avoir la maîtrise de l'antenne. Moi, je n'ai pas envie de laisser la place dans cette émission aux infox, aux fausses nouvelles, voilà.
Hormis les vaccins,
j'entends,
mais c'est très éclairant pour les auditeurs qui nous écrivent, ils ont votre point de vue et c'est important de l'entendre. Hormis les vaccins et l'homéopathie, y a-t-il des sujets sensibles ?
Non, enfin, si, les questions autour du véganisme.
Et est-ce qu'il y a des sujets que vous ne vous autorisez pas à aborder ?
Non, quasiment tous les sujets. Et puis, voilà, vos auditeurs l'ont dit, il y a une certaine impartialité, on accueille toutes les opinions dans cette émission. C'est vrai qu'on a consacré des émissions aux fake news, aux fausses nouvelles, aux infox, et c'est vrai que dans une large part, les vaccins font partie de ce domaine-là. Après, moi, je comprends totalement des parents qui ont, par exemple, un enfant autiste ou un enfant atteint d'une sclérose en plaques et qui s'interrogent, qui se demandent pourquoi est-ce que mon enfant est tombé malade, est-ce que c'est lié à un vaccin ou pas. Ceux-là, je les comprends, je comprends leurs interrogations et je comprends les interrogations de nombreux auditeurs sur les vaccins qui restent des médicaments avec évidemment des effets indésirables.
Et les auditeurs qui vous entendent maintenant comprennent que le vaccin est un sujet très sensible pour vous. D'ailleurs, je crois que c'est le thème de votre émission lundi.
Voilà, une émission consacrée aux anti-vaccins.
Quel est l'objectif de votre émission ?
C'est de faire de la pédagogie, vraiment, sur des tas de sujets de la vie quotidienne, qu'il s'agisse de psychologie, de questions de société, de consommation.
C'est aussi la manière de faire prendre conscience de certains sujets à des auditeurs,
tout à fait,
sans les culpabiliser.
Exactement. Alors, le grand maître mot de cette émission, c'est de ne pas culpabiliser, vraiment.
Et d'un mot, quelle est la philosophie de votre émission ?
Bah, c'est la fameuse phrase de Simenon que je fais mienne, c'est comprendre mais ne pas juger.
France Inter, le rendez-vous de la médiatrice, Emmanuel Davier.
Carnet de campagne, bonjour. Nous sommes en Lozère cette semaine, département très, pour ne pas dire hyper rural, qui à l'image des vastes campagnes fait tout pour limiter la perte des services et des liens entre les habitants. Annie nous donne deux exemples dans son courrier à Saint-Chély-d'Apcher. 4200 habitants aux confins de la Lozère et du Cantal. Elle cite d'abord la grange aux saveurs, phénomène courant d'épicerie fournie par les producteurs locaux. Ils sont une vingtaine ici à donner à ce lieu de consommation relocalisé sa raison d'être. Et puis le second correspond au sauvetage du seul cinéma de la commune voué à disparaître. Le cinéma, le Rex, a vu ses locaux repris en main par la commune afin de lui donner une nouvelle vocation de ciné-théâtre.
Carnet de campagne, c'est le rendez-vous des solutions d'avenir pour la consommation, la formation, la santé, la culture, l'habitat, une émission de service public qui permet de se rendre compte à quel point la France est un laboratoire d'innovation dans de nombreux domaines. Philippe Bertrand, quelles doivent être les qualités des projets collectifs ou individuels pour avoir une chance d'être sélectionné et de passer à l'antenne?
Ce qui relève de l'intérêt général, parfois l'innovation, et surtout d'éviter de tomber dans le piège du lucratif. J'ai eu un exemple, je me suis fait avoir. Mais en 13 ans, se faire avoir une fois, c'est pas trop grave. Enfin, je me suis fait avoir. J'ai eu une interlocutrice qui était assez véhémente et assez conditionnelle sur sa méthode, qui était une plateforme, comme il en existe de plus en plus, de distribution de produits alimentaires dits de proximité. Sauf que c'est une plateforme nationale et les produits de proximité peuvent faire 500 ou 600 kilomètres. Je connais pas les limites de la proximité, j'ai quand même des doutes. Et c'était un point de vue très, très commercial. Il l'a très intéressé et c'est à un moment de faillite et de faille dans les carnets de campagne. Mais j'espère, je touche du bois, qu'ils sont assez rares.
L'actualité met à jour les fractures de notre société. Et à travers vos interviews, est-ce que vous avez senti une évolution des préoccupations de vos interlocuteurs et cette cassure entre les territoires qui s'estiment en zone grise et les grandes villes?
Oui. D'abord, les chiffres avancés, le chiffre avancé, c'est 8 millions d'habitants des grandes agglomérations qui aspirent à s'installer à la campagne, mais pas uniquement pour faire joli et respirer l'air pur et voir les petits oiseaux, puis d'ailleurs l'air n'est pas toujours pur à la campagne nécessairement, mais aussi pour y travailler. Et de plus en plus de jeunes qui ont fait l'expérience parfois du système entrepreneurial classique ont préféré sortir de ce réseau pour donner du sens à leur vie et à leur travail en s'installant. Mais c'est pas uniquement à la campagne, ça peut être dans un quartier urbain, mais donner un vrai sens à leur vie.
Une auditrice souhaite savoir pourquoi vous ne demandez jamais à vos invités s'ils sont gilets jaunes ou pas.
Parce que je m'en moque.
Okay.
Mais je m'en moque, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir dans l'histoire. Sinon, ça veut dire que je prends parti pour et contre. Ah donc, si vous êtes à l'origine d'une initiative, c'est parce que vous êtes gilet jaune. Ou si vous êtes à l'origine d'une initiative probante, c'est que vous êtes contre les gilets jaunes. Non, ça, simplement, les carnets de campagne, les sujets qui sont traités, correspondent très souvent aux revendications d'une population assez vaste concernant la mobilité, l'emploi, l'habitat, la consommation.
Alors justement, je vais vous lire un message que je trouve vraiment épatant et qui traduit à quel point la radio joue un rôle dans nos vies à tous, dans la transmission des savoirs, de la connaissance et des informations. Message d'une auditrice. Il y a bientôt 2 ans, je venais de quitter un travail angoissant et je prenais conscience que mes convictions sociales mais aussi écologiques étaient trop fortes pour ne pas être au cœur de mon activité professionnelle. Au volant de ma voiture, j'écoutais votre émission et en particulier un reportage sur un restaurant à Nice. Et ce fut une révélation, utiliser la convivialité d'un repas pour rassembler et sensibiliser. Depuis, j'ai mûri, j'ai construit mon projet et j'ai monté à Lorient un café objectif zéro déchet. Ce café ouvrira ses portes au mois de juin. Alors je trouve, moi, que ce message de l'auditrice résume bien ce que l'on ressent à l'écoute de votre émission. Parce que parfois on se dit, tiens, moi je pourrais tout plaquer pour faire ça. Et est-ce que carnet de campagne, c'est aussi une façon de dire aux auditeurs, bah oui, c'est possible, avant vous, d'autres l'ont fait. Est-ce que c'est l'émission des possibles?
Oui, c'est l'émission des possibles. Sauf que je peux pas vous donner de résultats et de bilan et d'impact de l'émission sur les activités économiques, sociales et culturelles en France. Parce que je demande pas à nos interlocuteurs de nous donner des nouvelles de leur démarche. Mais spontanément, certains nous écrivent en disant, J'hésitais à créer une coopérative. J'ai entendu un interlocuteur chez vous. Je l'ai appelé. Il m'a convaincu. Il m'a donné les conseils. Il m'a accompagné. Et j'ai créé ma coopérative. Et puis, le nombre d'emplois qui ont été générés par ce maillage est inimaginable. Je peux pas vous en rapporter la densité, mais c'est fascinant.
Alors, même question qu'à Ali Rebéi, si vous deviez, d'une formule, résumer la philosophie de votre émission.
Oui, je pense que c'est donner du sens à sa vie et à son travail, ça c'est l'essentiel.
France Inter, le rendez-vous de la médiatrice, Emmanuel Davier.
On termine avec celui qui, chaque vendredi à 6h54, pose souvent un regard tendre sur les êtres, Frédéric Pommier. Dans le quart d'heure de célébrité, il dresse le portrait d'un inconnu qui a surgi dans l'actualité. Un inconnu devenu subitement célèbre, c'est le coup de cœur des auditeurs.
Et à la fin, ce sont souvent de longs remerciements, des accolades, des embrassades, de l'émotion, de l'amitié. C'est une leçon d'humanité que nous donne ce jeune coiffeur qui, sur son t-shirt, a inscrit ce slogan simple et juste « Le don de soi n'a pas de prix ». Parfois, il y a même des larmes de joie. Un jour, un sans-abri s'est mis à pleurer quand Kevin Ortega a tendu son miroir. Une fois terminée la coupe, en se regardant, l'homme a lancé « Kevin, tu es tombé du ciel ». Je ne sais pas d'où il est tombé, mais c'est un garçon merveilleux.
Kevin Ortega, 29 ans, coiffeur à Aubagne, il propose gratuitement ses services aux personnes sans-abri. Plusieurs réactions d'auditeurs. Merci infiniment pour cette magnifique chronique sur le coiffeur au grand cœur. C'est rassurant pour l'espèce humaine qui peut finalement oublier l'argent, la rentabilité, le mérite et faire place à la bienveillance et à la solidarité. C'était vraiment un très beau sujet. Merci. Bravo, vous nous donnez lieu de croire encore à l'humanité. Et enfin, un dernier message. Merci de votre retour, Frédéric Pommier. J'ai les larmes aux yeux grâce à ce quart d'heure de célébrité de Kevin Ortega et tous ceux qui donnent de la dignité aux plus démunis. Ali Rebéi, une émission sur les coiffeurs, sur les coiffeuses, c'est un vrai sujet. Il y a du lien social, du dialogue.
Oui, on avait consacré un grand bien vous fasse l'année dernière. Ça s'appelait « Quand nos coiffures racontent ce que nous sommes » avec un regard anthropologique et psychologique et c'est absolument passionnant.
Ali Rebéi, Philippe Bertrand, merci.
Qu'est-ce que j'étais content d'être en face de Philippe Bertrand.
Pas moi.
Oui, je sais, parce que quand on se croise dans les couloirs...
Mais j'aime bien tes cheveux.
Non, mais merci. Quand on se croise dans les couloirs, c'est toujours à couteau tiré. Oui. Non, je voulais juste, quand on parlait tout à l'heure de l'importance de la radio dans nos vies quotidiennes, moi, à une époque, j'ai connu le chômage, comme beaucoup, et Philippe Bertrand, je l'écoutais, j'allais au sport, et je l'écoutais de 15h à 16h, ça s'appelait Quand je serai grand, et c'était absolument formidable, et je tenais à dire, enfin, à mon sens, c'est l'un des meilleurs intervieweurs de France Inter, et il m'a accompagné et c'était un moment de ma vie qui est fort.
Merci Ali Rebéi, merci Philippe Bertrand. C'est la fin du rendez-vous de la médiatrice, une émission préparée par Catherine Cadic, à la réalisation François Audouin et à la technique Clément Berman. Pour nous écrire, une seule adresse, médiatrice.radiofrance.fr. Après le flash de 10h, eh bien on vous retrouve, Ali.
Vous allez en prendre pour une heure encore.
Eh oui, avec tous vos invités. Merci à vous.